L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale.
L'idéal de la femme blanche, hein, séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler, je crois bien qu'elle n'existe pas.
Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarca, patrie, patriarca,
patrie. Bonjour, et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni mari, ni patron, dans une nouvelle émission de Sortir du patriarcapitalisme. Autour aujourd'hui du féminisme pour les 99%, un manifeste paru aux éditions La Découverte en 2019. Et donc, pour parler de cet ouvrage, nous sommes avec Sophia, une habituée de l'émission. Bonjour Sophia.
Bonjour. Peut-être qu'on pourrait commencer par les autrices du livre, qui sont donc trois féministes marxistes. Cynthia Arruzza, Titi Bhattacharya et Nancy Fraser.
Du coup, ce manifeste, c'est un petit peu le croisement de leurs trois pensées. Cynthia Arruzza, qui est elle qui a surtout été active dans la préparation de la grève internationale des femmes de 2017, qui est un peu le point de départ de cet ouvrage. Titi Bhattacharya, qui est une théoricienne de la reproduction sociale, donc qui est un concept vraiment central du livre. Et Nancy Fraser, qui elle est une philosophe qui a notamment théoriser le fait que la crise du capitalisme actuel serait aussi une crise du care, c'est-à-dire que finalement le capitalisme néolibéral notamment saperait les bases de sa propre reproduction sociale en empêchant les gens se nourrir, de s'occuper de leurs enfants, etc. par la précarité qu'ils génèrent et tout un tas d'autres phénomènes dont on va parler dans l'émission. Alors peut-être pour commencer sur cet ouvrage, il faut donc rappeler que le point de départ de l'écriture de ce manifeste, donc c'est la grève internationale des femmes de 2017, donc qui a eu notamment une importance centrale en Espagne, donc dont elle parle, donc voilà page 12, sur une grève de militantes féministes qui a paralysé l'Espagne pendant 24 heures. Avec quand même 5 millions de manifestantes qui ont appelé à une société débarrassée des oppressions, de l'exploitation et des violences sexistes. Et donc le manifeste un petit peu des organisatrices de cette grève féministe proclamait donc « Nous appelons à la révolte et à la lutte contre l'alliance du patriarcat et du capitalisme qui veut nous rendre obéissantes, soumises et silencieuses ». Donc l'idée c'était donc « Le 8 mars, nous croisons les bras » et interrompons toute activité productive comme reproductive. Donc il y a l'idée vraiment centrale dans ce manifeste, et donc qui part de cette grève féministe, que il faut faire face donc, à l'alliance du patriarcat et du capitalisme. Donc ça évidemment c'est une critique du féminisme libéral qui court tout au long du livre. Et puis aussi le fait que le seul terrain n'est pas celui traditionnel de la lutte au sein des entreprises pour de meilleurs salaires, contre les inégalités salariales subies par les femmes, la précarité, etc. Mais aussi sur le terrain du travail domestique, de la reproduction sociale.
En cela, elle se positionne contre les 1% de femmes qui finalement sont majoritairement des femmes blanches bourgeoises, qui effectivement, grâce aux outils du féminisme, ont réussi à se hisser au plus haut poste des grandes entreprises, des États, etc., mais qui finalement elles-mêmes reconduisent la domination et l'oppression des femmes, des classes populaires, racisées, etc. Et du coup, c'est pour ça, ce féminisme des 99% est souhaité comme un féminisme pour toutes les femmes, pas seulement celles qui ont les moyens et la situation sociale, etc., pour s'élever dans les hautes sphères de la société, mais pour les femmes qui finalement souffrent du fait même des femmes qui font partie des 1%.
Oui, oui, d'ailleurs, elles commencent un petit peu leur manifeste voilà, par une critique un petit peu du féminisme libéral, en accusant donc les féministes libérales de vouloir un monde dans lequel la gestion de l'exploitation au travail et de l'oppression dans l'ensemble de la société serait partagée de façon égalitaire entre les hommes et les femmes de la classe dirigeante. Autrement dit, elles réclament une égalité des chances de dominer. Je trouve que c'est quand même une bonne critique.
Oui, effectivement, cette expression est vraiment, vraiment sympa. D'autant plus qu'après, elles y reviennent de manière assez convaincante quand elles parlent du féminisme du microcrédit. Je trouve que leur critique est relativement intéressante dans le sens où elle souligne que des instruments qui seraient mis en place par les hautes sphères, notamment féminines, pour aider, entre guillemets, les femmes racisées et prolétaires d'autres pays, sont en fait les mêmes instruments qui mènent à leur perte.
Oui, oui, notamment, elles font une critique voilà, du microcrédit, c'est-à-dire de ces prêts de faibles sommes aux femmes racisées du tiers-monde, qui en réalité aboutit à leur endettement et finalement ne les libère pas non seulement du patriarcat local, mais en plus, accroît leur vulnérabilité financière et finalement voilà, représente clairement pas un outil d'émancipation pour elles.
Et peut-être, pour commencer, dans l'un des points intéressants du livre, on avait remarqué que ce que tu disais tout à l'heure sur à la fois la critique de la production et celle de la reproduction, c'est vraiment des points intéressants dans le sens où elle souligne que finalement, à la fois le travail productif, mais également le travail reproductif des femmes est à la cause de leur inégalité. Peut-être tu pourrais commencer par...
Voilà, une idée centrale du livre, c'est que, en fait... la lutte des classes, notamment, et l'oppression des femmes se fait sur à la fois donc, le terrain de la production capitaliste, donc avec l'inégalité des salaires, le fait que les femmes se retrouvent dans les emplois les plus mal payés, les plus précaires, etc. Donc une critique habituelle, mais à laquelle elles ajoutent le fait que dans la société capitaliste, les femmes sont forcées de prendre en charge ce qu'elles appellent la reproduction sociale. C'est-à-dire, en gros, l'ensemble des activités qui sont nécessaires à ce qu'elles appellent la production des personnes. C'est-à-dire, pour produire des personnes, il faut les éduquer, leur apprendre à marcher, bon, évidemment les produire biologiquement, hein, même en première instance, et puis les vêtir, prendre soin de ces personnes, donc tout le travail du care, et puis ça, de la naissance jusqu'à la mort, puisqu'il y a aussi les personnes âgées, etc., etc.
Il faut aussi ajouter le travail domestique qui, bien sûr, encadre toute cette activité d'élevage avec les nourrir, laver la maison, etc.
Oui, et donc du coup, voilà, leur argument, c'est que dans la société capitaliste, je cite, « l'organisation de la reproduction sociale se repose sur le genre, elle s'appuie sur des rôles genrés et entretient les oppressions de genre ». Donc il y a voilà, cette idée que finalement le capitalisme bénéficie de ce travail de reproduction sociale gratuit effectué par les femmes à son profit. Donc c'est une idée un peu centrale hein, du féminisme marxiste depuis une quarantaine d'années.
Et de manière assez intéressante, elles incorporent aussi la critique qui a été faite plus tard que le féminisme marxiste des années 70, qui est le fait que dans certaines franges de la société, surtout de la frange blanche bourgeoise de la société, le travail du care gratuit n'est finalement plus présent parce qu'il a été transposé aux travailleuses, en général immigrées, racisées, qui effectuent ce travail de manière rémunérée, bon, relativement faiblement. C'est assez intéressant du coup qu'elles incorporent cette critique-là, intersectionnelle finalement du travail du care dans un féminisme marxiste relativement traditionnel.
Oui, oui, c'est vrai que c'est nouveau par rapport au féminisme marxiste des années 70. C'est voilà, cette idée qu'elle résume page 42. Donc, les sociétés capitalistes ont toujours institué une division raciale du travail reproductif, que ce soit par l'esclavage ou le colonialisme, l'apartheid ou le néo-impérialisme. Ce système a contraint les femmes racisées à fournir ce travail gratuitement ou à très faible coût pour leurs sœurs, entre guillemets, blanches ou issues de l'ethnie majoritaire.
Mais d'ailleurs, avec cette dernière phrase, en mettant entre guillemets les sœurs blanches, on voit qu'elles répondent aux féministes blanches universalistes qui se fondent sur une entre guillemets essence féminine commune à toutes les femmes du monde, qui seraient toutes dans les mêmes situations de race, de classe, peu importe finalement. Et je trouve que leur positionnement est assez intéressant, et même leur référence dans leur remerciement au Combahee River Collective est aussi montrent leur placement vis-à-vis du féminisme noir. Et je trouve que moi, leur incorporation des apports du féminisme noir et du féminisme intersectionnel sont relativement intéressants.
Oui, oui, c'est vrai qu'elles montrent bien, effectivement, comment est-ce que depuis voilà, l'esclavage, le capitalisme a utilisé les femmes racisées pour prendre en charge la reproduction sociale. Simplement, par rapport à la critique du féminisme blanc, donc c'est abordé assez rapidement, mais je trouve qu'un peu l'essentiel y est, page 69-70, où finalement, elles disent bon, attention à ne pas en appeler à une sororité universelle, parce que en matière justement d'antiracisme, le bilan du féminisme, donc je cite, concernant la question raciale est au mieux mitigé. Donc elle parle des suffragistes blanches états-uniennes qui ont soutenu la ségrégation aux États-Unis dans la deuxième moitié du 19e et la première moitié du 20e siècle.
Et en plus, elles ont explicitement positionné contre le droit de vote des femmes noires, peut-être qu'il faut le rappeler à ce moment-là, alors qu'elles-mêmes défendaient le droit de vote des femmes blanches pour s'assurer que la hiérarchie raciale serait perpétuée.
Voilà, c'est ça. Elles ont un petit peu, pour leur propre promotion, joué la solidarité de race contre la solidarité de genre, et donc au détriment des femmes racisées. Et c'est un pattern qu'on retrouve aussi dans le féminisme anglais, qui a soutenu la colonisation en Inde, y compris de manière paternaliste, en disant que la colonisation allait libérer finalement les femmes racisées du patriarcat local.
Et de manière peut-être plus actuelle ou presque actuelle, on peut se rappeler des discussions féministes en France au moment de la loi sur le port du voile à l'école, ou les débats dans le cadre desquels les féministes blanches sont clairement positionnées contre les droits des femmes racisées.
Oui, c'est ça. Sous prétexte de lutter contre le patriarcat, finalement, les premières visées, en l'occurrence par cette loi, c'était les femmes qui portent le voile. C'était pas le patriarcat en tant que tel, quoi.
Et quand bien même ces femmes qui portent le voile souhaitaient s'exprimer sur leurs souhaits et leur volonté de porter le voile, elles étaient décrédibilisées comme pas forcément, pas suffisamment réfléchies et conscientes de leurs actes.
Après, donc, sur cette idée de reproduction sociale, bon, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles expliquent, et ça je pense que c'est aussi là où qu'on retrouve une perspective intersectionnelle, comment est-ce que le capitalisme, disons, incite fortement les femmes à effectuer ce travail de reproduction sociale d'une manière hétéronormative et binaire. Donc, je cite, « Les sociétés capitalistes ont encouragé les mères, les enseignants, enseignantes et les médecins, parmi d'autres, à s'assurer que les enfants soient strictement modelés en filles cis et garçons cis et en hétérosexuels. De la même façon, les États modernes ont souvent essayé d'instrumentaliser le travail de fabrication de personnes pour servir des projets nationaux ou impériaux, incitant les naissances du entre guillemets bon type tout en décourageant celles du entre guillemets mauvais type. »
Peut-être pour réagir sur cet extrait qui est très intéressant, je trouve, on pourrait citer Le ventre des femmes de Françoise Vergès, qui démontre bien que ce contrôle de la naissance des bons types et du mauvais type est exactement ce qui se déroulait en France dans les années 60, avec dans la France métropolitaine un refus de la contraception, de l'avortement, bon, en fonction des années, pour les femmes blanches, et une politique nataliste très forte pour encourager la naissance des enfants blancs. Alors que dans le même temps, dans les colonies françaises, ou nouveaux départements, entre guillemets, français...
Oui, il y avait effectivement des avortements forcés, une politique de stérilisation...
Exactement. Et même, outre ces événements peut-être qualifiés par certains d'exceptionnels, la politique de contraception dans les anciennes colonies françaises était quand même relativement forte, alors que dans la France métropolitaine, la contraception n'était pas une question, quoi. Donc même outre les avortements et la stérilisation forcée, il y avait quand même une politique d'État clairement établie de régulation des naissances des enfants indigènes.
Oui, les États voulaient produire plutôt un certain type de personnes,
exactement,
des personnes blanches que des personnes racisées. Après, pour finir un petit peu sur cette idée de reproduction sociale qui est vraiment un peu le cœur de leur argument, elles disent « Quand on comprend que la reproduction sociale est au cœur de la société capitaliste, on ne voit plus les classes de la même manière. Ce qui fabrique la classe dans la société capitaliste, ce ne sont pas seulement les relations qui exploitent directement le travail, comme le présentent les analyses classiques, mais aussi les relations qui permettent de reproduire et de renouveler ce travail. La classe ouvrière mondiale n'est pas non plus exclusivement composée de salariés des usines ou des mines. Celles et ceux qui travaillent dans les champs et à domicile, dans les bureaux, les hôtels, les restaurants, dans les hôpitaux, les crèches et les écoles, dans le secteur public et la société civile, les précaires, les sans emploi, et celles et ceux qui ne reçoivent pas de salaire en échange de leur travail, font également partie de la classe ouvrière. Loin d'être limitée aux hommes blancs hétérosexuels, qui incarnent encore trop souvent dans nos imaginaires la classe ouvrière mondiale, est essentiellement composée de migrants-migrantes, de personnes racisées, de femmes cis et trans. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que là, on voit qu'il y a quand même une rupture assez forte avec le marxisme traditionnel et aussi un souci d'inclusivité qui n'existait pas, même dans le féminisme des années 70, on ne parlait pas du tout des personnes trans. Et l'image quand même du mouvement ouvrier était principalement les ouvriers blancs hétérosexuels, à la limite les ouvrières blanches hétérosexuelles, mais voilà, on voit quand même que il y a un renouvellement du coup de la vision de ce que c'est que la classe ouvrière et du coup du sujet qui est censé, dans la théorie marxiste, combattre le capitalisme.
Est-ce que tu penses qu'on pourrait pas aussi répondre à cette analyse que finalement le fait que les femmes qui s'occupent du care de manière non rémunérée et le fait qu'elles soient intégrées à la classe ouvrière gomment les différences entre les deux, et finalement est-ce que ça serait pas une histoire d'enlargir la catégorie du sujet révolutionnaire pour y faire entrer les femmes qui font un travail non rémunéré, etc., plutôt que de leur trouver une spécificité et de leur appliquer une grille de lecture, une grille d'analyse spécifique.
Oui, je pense que ça, c'est un des gros problèmes en fait, du féminisme marxiste qu'on retrouve dans ce... Et c'est là, je pense, que finalement, elles ne sont pas allées, les autrices, donc, jusqu'au bout d'une démarche intersectionnelle, puisque finalement, elles essaient de rattacher tout le monde à la classe ouvrière mondiale. Mais, et ça je pense que c'est le gros problème, je pense, du livre, c'est le fait de considérer le capitalisme comme la source de l'oppression du genre, au moins dans les sociétés modernes depuis du 19e siècle, ça conduit à gommer le fait qu'il y a une partie de la classe ouvrière, entre guillemets, qui bénéficie d'une autre partie. Évidemment, elles disent bien que les féministes blanches, bourgeoises, bénéficient du travail reproductif non payés ou peu payés des femmes racisées immigrées, prolétaires. Mais, en revanche, elles ne disent jamais dans le livre quelque chose qui est quand même vrai, que les hommes blancs ou racisés prolétaires bénéficient aussi, il n'y a pas que le capitalisme, du travail reproductif gratuit des femmes.
Effectivement, la classe des hommes est complètement gommée, en fait, dans le livre. Les classes présentes, c'est les classes, les bourgeois, les prolétaires, les classes sociales, mais un petit peu peut-être en matière de race, il y a la classe des blancs et la classe des personnes racisées est présente, mais alors la classe des hommes n'existe absolument pas, et la classe des hommes en tant que classe dominante encore moins.
Oui, ce qui est quand même problématique pour un manifeste qui se veut féministe. C'est-à-dire que l'idée un petit peu du manifeste, bon voilà, est un peu résumée dans le titre, voilà, féminisme pour les 99%, donc ça veut dire, bah évidemment c'est 99%, donc il y a la moitié, c'est des hommes, et qui, du coup, d'une certaine manière, sont pas les acteurs, finalement, du patriarcat, puisqu'ils sont dominés dans le capitalisme. Bon, qui est un raisonnement qui, à mon avis, est faux. Je veux dire, clairement, les hommes bénéficient de ce travail reproductif gratuit des femmes, très clairement. Et donc, du coup, effectivement, c'est bien de dire, comme elles le disent, page 45, la lutte des classes inclut les luttes liées à la reproduction sociale, donc en gros... Dans les luttes anticapitalistes, il n'y a pas que les luttes sur les lieux de production, il y a aussi les luttes qui concernent les écoles, les salaires dans les hôpitaux, etc. Mais pour autant, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une lutte de genre à l'intérieur de la lutte des classes.
Peut-être en plus, pour ajouter à ce que tu disais, finalement, dans leur manifeste, il y a le travail productif, le travail reproductif, et le patriarcat s'exercerait dans ces deux sphères, mais il y aurait pas d'autres sphères. Et finalement, en fait, si, il y a toutes les violences sexuelles, les violences homophobes, transphobes, etc., qui sont aussi résultent parfois en partie du patriarcat, s'exercent ni dans la sphère du travail productif, enfin parfois si, effectivement, mais parfois non, ni dans la sphère du travail reproductif. Mais pourtant, elles sont pas du tout taclées par ce manifeste.
Oui, bah, en fait, je pense que là, le problème du féminisme marxiste, c'est qu'en cherchant à faire de toutes les oppressions de genre des conséquences du capitalisme. Donc c'est très clairement exprimé, voilà, page 39, c'est pas nous qui inventons. Les sociétés capitalistes sont aussi intrinsèquement la source des oppressions de genre. Voilà, c'est quand même relativement clair. Eh bien, on arrive à des choses complètement absurdes, comme tout leur passage, page 47 à 49, sur les violences de genre. Je ne sais même pas s'il faut le citer, parce que c'est quand même vraiment absurde, mais on invite du coup les auditeurs et les auditrices à s'y reporter. Il y a quand même des passages où on dit que finalement, en gros, c'est parce que les hommes sont pris dans la crise économique, parce que il y a un bouleversement des rapports de genre depuis 40 ans, parce que c'est la précarité, parce que, etc., etc., que, ils se mettent à taper leurs femmes, etc., etc. Bon, alors que ce phénomène existe depuis un bout de temps, quand même, depuis l'existence de la société patriarcale, donc...
Et je pense que les violences de genre sont tout aussi présentes dans les classes bourgeoises que dans les classes prolétaires, et dire que... La crise économique menace les bourgeois qui se sentent donc obligés de battre et violer leurs femmes, c'était quand même un peu fort de café.
Voilà, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que, clairement, comme souvent dans le féminisme marxiste, un peu on trouve des excuses aux hommes des classes populaires en disant « Non, mais c'est pas de leur faute, les pauvres. » Bon, en plus, c'est hyper paternaliste, quoi. On leur reconnaît même pas le fait que, bah oui, peut-être qu'ils ont une agentivité, peut-être qu'ils sont pas que des dominés qui subissent passivement leur destin sur le marché capitaliste. Mais aussi des dominants qui activement cherchent à sécuriser un rapport de genre qui leur soit favorable à l'intérieur de leur relation de genre, quoi.
Mais c'est quand même drôle, parce qu'effectivement, ce passage, on a l'impression qu'elle se réapproprie les discours masculinistes qui justifient les violences faites aux femmes par la faiblesse de l'homme, avec un grand H, et leur doute dans leur, je cite, « pouvoir de séduction ». C'est quand même dingue pour un manifeste féministe qu'elle se réapproprie le discours des antiféministes et des masculinistes pour justifier les actes violents des hommes de la classe ouvrière.
Oui, exactement. Et en fait, là où on voit que le féminisme marxiste, au moins sur ce point, est vraiment une faillite analytique, c'est que finalement, elles sont incapables de théoriser la violence de genre au sein des foyers domestiques, autrement que comme quelque chose d'irrationnel. Donc voilà, elles disent une forme apparemment privée et irrationnelle. Alors ok, elles mettent irrationnel entre guillemets, mais on a l'impression que finalement, c'est lié au fait que les hommes sont malheureux, donc ils boivent, ils sont menacés dans leur masculinité. Là où leur fonctionnalisme marxiste revient, c'est qu'elles n'arrivent pas à expliquer ces violences privées, donc tout ce qu'elles vont réussir à expliquer, de manière fonctionnaliste et un peu réductionniste, c'est les violences liées à la reproduction du capitalisme, donc le viol des femmes victimes de l'esclavage et de la colonisation, le fait que durant les guerres, il y a des viols collectifs qui font partie des armes de guerre, le fait que les trafiquants vont violer les esclaves sexuels pour les dresser, etc., etc. Donc en fait, finalement, ce qu'elles arrivent à expliquer, c'est uniquement ce qui sert directement le système capitaliste. Elles disent par exemple que les agressions et les harcèlements sexuels au travail dans les écoles ou dans les hôpitaux font également partie des techniques de contrôle. Bon, est-ce qu'on peut vraiment réduire les violences de genre dans ces espaces à uniquement des techniques de contrôle et pas pour simplement y voir simplement la domination masculine et le fait que la violence sert à réaffirmer.
Et dans ce cas, si on voit dans ces situations de viol ou de harcèlement dans les écoles ou les hôpitaux comme des techniques de contrôle, est-ce que dans ce cas, on ne devrait pas filer la métaphore dans les maisons aussi et voir ça comme des techniques de contrôle? Parce que là, par contre, parce que leur analyse dans des violences de genre dans la sphère privée, finalement, elle est justifiée par des considérations vraiment presque psychanalytiques. Alors certains hommes considèrent les femmes comme incontrôlables et la société moderne, caractérisée par de nouvelles libertés sexuelles et une grande fluidité de genre comme chaotique. Leurs femmes sont prétentieuses, leurs maisons désordonnées et leurs enfants sauvages, tout ça entre guillemets. Et du coup, on a ces justifications psychologiques, semi-psychanalytiques qui justifient la violence de genre. Là, le viol est complètement ignoré parce que je veux dire, elle vise clairement la violence non sexuelle, Alors que dans le cas des violences sexuelles dans la sphère publique, elle est expliquée par...
Exclusivement par des considérations instrumentales de reproduction, oui, de la machine, quoi.
Exactement. Mais alors pourtant on pourrait se dire que finalement les violences de genre, dans tous les cas, elles sont effectivement instrumentales à obtenir quelque chose. Et dans ce cas, on retombe sur l'analyse matérialiste des hommes comme classe dominante qui... notamment par le biais des violences sexuelles et des violences non sexuelles, obtiennent des avantages de la part de la classe des femmes.
Oui, effectivement, une analyse matérialiste des violences de genre dirait que les violences de genre sont commises parce qu'elles sont à la fois la manifestation et le moyen de la reproduction d'une domination de la classe des hommes sur la classe des femmes. Et ça, c'est pas du tout dit. Et ça, finalement, c'est le sujet... qui est le sujet de la domination qui est complètement absent dans ce livre, c'est les hommes. Les hommes n'existent pas, il y a le capitalisme qui opprime les femmes, les classes populaires, etc., etc. Alors là, effectivement, il y a une forme d'inclusivité, mais alors par contre, le fait que les hommes sont au sein du système patriarcal, qui n'est pas du tout théorisé finalement, puisque finalement il est rabattu intégralement sur le capitalisme, au lieu d'être considéré comme un système qui est au moins analytiquement semi-autonome, même si évidemment dans la réalité tout s'interpénètre, mais clairement il y a des choses qui sont liées au patriarcat, qui sont plus anciens que le capitalisme, et qui sont même plus anciens que la société de classe, et qui ont une forme d'autonomie, et qu'on ne peut pas expliquer par simplement c'est le capitalisme, c'est les lois du marché, c'est la reproduction sociale. Il y a des choses dans... les violences de genre, dans les rapports de genre, qui ne s'expliquent pas par le capitalisme. Et si on s'efforce de rabattre toute l'oppression de genre sur le capitalisme, on aboutit à la fois à une impasse analytique, parce qu'il y a des choses comme les violences de genre qu'on ne comprend pas, et on arrive aussi sur une impasse politique, parce qu'on croit du coup que on va tous s'unir, les 99%, etc., contre les méchants hommes et femmes blancs et blanches de la classe bourgeoise, mais en fait, on oublie que à l'intérieur de ces 99%, il y a énormément de conflits d'intérêts divergents. Effectivement, il y a peut-être un intérêt convergent contre ces 1%, mais il y a aussi plein d'intérêts divergents à l'intérieur. Et on oublie que, par exemple, poser la question du travail reproductif, du travail ménager ou domestique, comme disent les féministes matérialistes, ça implique non pas seulement de s'en prendre au capitalisme qui effectivement menace ces activités de reproduction sociale en fermant des crèches, des hôpitaux, finalement en laissant les femmes avoir un fardeau toujours plus important avec le travail salarié, parfois le fait qu'elles sont obligées de s'occuper des enfants des autres. Donc ça, c'est intéressant. On ne parle jamais du fait que peut-être que les hommes des classes populaires devraient aussi prendre en charge ce travail domestique, même si évidemment la solution n'est pas à un niveau individuel, elle est au niveau du changement de la société complète, mais c'est clairement pas en théorisant cette société uniquement comme capitaliste qu'on arrivera à la transformer de manière émancipatrice, quoi. Après, on peut aussi au passage critiquer le fait qu'elle rabatte aussi l'oppression raciste sur la question du capitalisme. Donc par exemple, quand elle dit « la racine du problème est le capitalisme », dont le racisme et l'impérialisme sont des corrélats. Donc là, bon, effectivement, on voit qu'elles ont inclus la question du système raciste, mais en la plaquant uniquement sur le capitalisme, alors que, les ouvriers blancs peuvent aussi, comme on l'a vu en Afrique du Sud, par exemple, défendre leurs privilèges blancs. Simplement, on ne peut pas rabattre le racisme uniquement comme étant le fait du capital et des capitalistes et du capitalisme. Voilà, et puis elles font aussi, de manière générale, on a l'impression dans ce livre que le capitalisme est la source de toutes les oppressions, alors que c'est un petit peu rapide de dire ça, quoi.
Peut-être qu'après cette critique relativement acerbe qu'on vient de mener, on pourrait revenir rapidement sur les points positifs de ce livre, qui quand même se lit relativement bien. Il est, en fait, finalement, à la fin, on va peut-être commencer par le présenter la structure. En fait, il se lit en plusieurs thèses, il y a une vingtaine de thèses, si je ne me trompe pas, et chacune, qui fait entre 5 et 15 pages, présente les arguments de ce manifeste. Pour moi, l'un des éléments vraiment émancipateurs et très intéressant, et qu'il est, à mon sens, intrinsèquement intersectionnel, dans le sens où, finalement, la question de la race n'est pas... accessoire, on fait pas partie de la 21e thèse après toute l'analyse des féministes blanches, mais non, justement, l'oppression de race est au cœur de la structure même du patriarcat dans le cadre de ce manifeste. Et pour moi, c'est vraiment avant-gardiste dans ce sens-là. Je pense qu'aussi, c'est très intéressant la manière dont il s'approprie les luttes féministes à la fois actuelles et passées. Il encourage à la convergence des luttes féministes et de classe, LGBT et de classe. Et je trouve que ces références historiques sont très intéressantes. Et effectivement, ça donne une perspective assez claire de comment mettre fin au capitalisme, au patriarcat, mais effectivement au patriarcat capitaliste, mais non au patriarcat patriarcal, si je puis dire.
Oui, effectivement, ça c'est la limite. Et on voit un petit peu cette faiblesse, voilà, justement, à penser ça aussi par rapport à leur chapitre sur la sexualité, donc de page 57 à page 67, qui est, j'ai trouvé quand même pas complètement convaincant, et qui est lié encore une fois au fait que, comme le féminisme marxiste ne pense pas le patriarcat comme système semi-autonome qu'il faut comprendre en tant que tel et pas simplement en le plaquant sur le capitalisme ou une autre société de classe, du coup on aboutit à des considérations qui sont pas très intéressantes, pas très cohérentes, un peu fouillies. Alors c'est vrai qu'on l'abordera dans une autre émission, il y a malgré tout des analyses marxistes, queer, de la sexualité qui ont été développées dans le monde anglo-saxon, qui sont intéressantes. Mais là, en tout cas, ce qui a été produit dans cette thèse, qui s'appelle « Le capitalisme essaye de contrôler la sexualité, nous voulons la libérer », pas complètement convaincante. Voilà. Bon, c'est pas inintéressant non plus, mais ça reste assez basique. Bon, notamment quand ils disent « Le capitalisme financiarisé alimente des réactions très hostiles à cette nouvelle liberté sexuelle ». Donc, où notamment ils parlent des incels, donc les types qui ont... Notamment le type qui avait fait l'attentat, il me semble, à Toronto, où il avait tué pas mal de femmes. Bon, je vois pas trop le rapport avec le capitalisme néolibéral, mais enfin...
Et on voit pas tellement le rapport non plus avec la sexualité, dans la mesure où cet homme a tué des femmes parce qu'elle refusait de sortir avec lui, mais qu'elle n'était pas particulièrement lesbienne ou trans, et pourtant c'est quand même la thèse, entre guillemets, queer du livre, et elle cite que des violences faites aux femmes en tant que groupe de femmes, et pas en tant que groupe queer LGBT, enfin c'est pas la question, donc c'est un peu vacillant, effectivement.
Oui, c'est ça. Après, il y a deux, trois choses intéressantes, comme par exemple, elle critique, encore une progressisme libéral. Donc notamment, par exemple, quand elles disent, oui, il y a certains États qui se targuent de reconnaître les droits des personnes trans, mais continuent de refuser à couvrir leurs frais médicaux de transition. Et puis, il y a aussi le fait que, en fait, le capitalisme continue de considérer la famille hétérosexuelle comme la norme, et donc évidemment... sécrète une forme d'homophobie et de transphobie structurelle, ça c'est clair. Mais j'ai l'impression que c'est une partie qui est... Il y a beaucoup de faits, de choses, mais c'est qu'il n'y a pas vraiment d'explication théorique très convaincante de l'oppression de genre dans sa dimension cis-sexiste et homophobe. Donc ça c'est un petit peu dommage. Après, peut-être pour finir sur quelques points... positif, il y a évidemment une prise en compte de la question du climat dans l'ouvrage. Même si la partie sur finalement la nécessité d'allier féminisme et écologie n'est pas forcément toujours très intéressante, par contre il y a quand même le fait qu'elle rappelle de manière très matérialiste que les premières victimes du dérèglement climatique vont être les femmes.
Et les femmes racisées du sud global, entre guillemets, comme on dit.
Oui, exactement, parce que évidemment, c'est elles qui s'occupent principalement des activités agricoles, donc qui vont devoir subir les sécheresses, etc., qui vont donc avoir de plus en plus de mal à assurer la reproduction sociale. Donc effectivement, c'est un point quand même intéressant de l'avoir amené. Et peut-être une dernière chose qu'on peut mentionner, c'est le fait que elles insistent beaucoup sur le fait que la grève féministe semble être une nouvelle technique de lutte très intéressante à mener, et effectivement qui sort un petit peu de la grève sur le lieu de travail, qui est malgré tout de moins en moins efficace depuis une trentaine d'années.
Et aussi, je trouve que ça repropose une nouvelle figure du gréviste qui ne serait finalement pas un ouvrier blanc prolétaire, mais qui pourrait aussi être une femme racisée, prolétaire aussi. Et finalement, pour elle, qu'elle soit... qu'elle effectue du travail domestique rémunéré ou pas rémunéré, elle pourrait effectivement faire partie de cette figure-là. Pour moi, il y a une nouvelle proposition de la figure du gréviste qui est très intéressante.
Oui, ouais, ça c'est vachement intéressant, cette espèce de réappropriation féministe de la grève. Et finalement, c'est vrai qu'on peut se dire que dans la mesure où ça touche à la fois la production et la reproduction, ça a peut-être une ampleur de contestation encore plus importante que si c'est simplement une grève de la production.
Mais d'ailleurs, elle souligne bien qu'en termes de chiffres, c'est quand même c'est bien plus important que simplement les grèves des pays entre guillemets du Nord par des hommes blancs, comme on a pu assister les dernières années.
Ouais, ouais. Et ça va de pair avec leur idée que, et ça c'est quelque chose qu'on observe à l'échelle mondiale depuis une vingtaine d'années, c'est que dans la mesure où le capitalisme néolibéral depuis les années 80 apportait finalement son attaque non pas seulement sur le champ de la production, en baissant les salaires, en délocalisant et tout ça, mais aussi sur le champ de la reproduction, c'est-à-dire en cassant les budgets sociaux, en fermant des écoles, des crèches, etc.
Des maternités.
Eh bien, c'est un champ de lutte qui, aujourd'hui, doit être reconnu comme extrêmement important dans la lutte contre le capitalisme et aussi le patriarcat.
Et d'ailleurs, pour conclure, je pense qu'on peut se référer aux récentes... grèves et manifestations qui ont lieu en France contre la fermeture de maternités, une vague de protestations qui prend de l'ampleur et qui se situe tout à fait dans le cadre de cette lutte.
Bon, finalement, un manifeste assez stimulant intellectuellement, notamment pour sa critique du capitalisme patriarcal et du féminisme libéral, mais avec quand même des choses à redire. Donc on espère que vous avez apprécié cette émission d'analyse critique de ce manifeste féministe marxiste du XXIe siècle. Donc merci Sophia.
Merci.
Extrait choisi de Féminisme pour les 99%, un manifeste de Cynthia Arruzza, Titi Bhattacharya, Nancy Fraser, paru aux éditions La Découverte en 2019. Thèse numéro 2, le féminisme libéral est en faillite, il est temps de s'en débarrasser. Loin de fournir des solutions, le féminisme libéral fait partie du problème. Centré sur les pays occidentaux et les catégories socio-professionnelles supérieures, il encourage les femmes à s'imposer et à briser le plafond de verre. S'employant à permettre à une poignée de femmes privilégiées de gravir les échelons au sein de l'entreprise et les grades au sein de l'armée, il propose une vision de l'égalité indexée sur les lois du marché, qui coïncide parfaitement avec la manière dont les entreprises épousent actuellement la cause de la diversité. Bien qu'il condamne les « discriminations » entre guillemets et prône la « liberté de choix » entre guillemets, le féminisme libéral refuse catégoriquement de reconnaître et de lutter contre les contraintes socio-économiques qui empêchent pourtant la grande majorité des femmes d'accéder à la liberté et l'autonomie, « empowerment ». Son véritable objectif n'est pas l'égalité, mais la méritocratie. Plutôt que d'aspirer à abolir la hiérarchie sociale, il vise à la diversifier en permettant à des femmes « talentueuses » entre guillemets d'atteindre le sommet. En considérant les femmes simplement comme un groupe sous-représenté, ses promoteurs et promotrices cherchent à s'assurer que seules quelques âmes privilégiées peuvent accéder à des postes et des rémunérations équivalents à ceux des hommes de leur propre classe. Par définition, les principales bénéficiaires de ce système sont ainsi celles qui possèdent déjà des avantages économiques, culturels et sociaux considérables. Toutes les autres restent coincées au sous-sol. Parfaitement compatible avec les inégalités galopantes, le féminisme libéral externalise les oppressions. Il permet aux femmes cadres de s'imposer en leur donnant précisément la possibilité de s'appuyer sur des femmes migrantes mal payées auxquelles elles sous-traitent leurs tâches ménagères et les soins à leurs proches. Insensible aux positions de classe et de race, il lie notre cause à l'élitisme et à l'individualisme. Il nous associe à des politiques qui nuisent à la majorité et nous coupent des luttes s'opposant à ces politiques. Bref, le féminisme libéral donne mauvaise réputation au féminisme. Le culte de la réussite personnelle porté par l'éthos du féminisme libéral converge avec les valeurs de l'entreprise, mais aussi avec celles portées par certains porte-drapeaux de la culture néolibérale, à l'image des célébrités des réseaux sociaux qui confondent également le féminisme avec l'ascension individuelle d'une poignée de femmes. Dans ce monde-là, le « féminisme » entre guillemets risque de devenir un hashtag à la mode et un simple outil d'auto-promotion utilisé pour faire réussir un petit nombre et non en vue de libérer la majorité. Le féminisme libéral est donc un alibi parfait pour le néolibéralisme. Il permet aux forces qui défendent le capitalisme de passer pour progressistes en dissimulant, derrière une rhétorique d'émancipation, leur politique régressive. Alors que le néolibéralisme renforce sous nos yeux les oppressions de genre, la seule façon pour les femmes et les personnes non-binaires de réellement bénéficier des droits dont elles disposent sur le papier ou de ceux qu'elles pourraient encore gagner est de transformer le système social qui érode ces droits de manière sous-jacente. En soi, la légalisation de l'avortement légal ne représente pas grand-chose pour les femmes pauvres et les ouvrières qui n'ont ni les moyens de le payer ni la possibilité d'accéder aux cliniques. De la même façon, pour les femmes les plus pauvres, l'égalité salariale ne peut signifier que l'égalité dans la misère. Le féminisme, pour les 99%, articule la lutte des classes et la lutte contre le racisme institutionnel. Il met en avant les préoccupations de l'ensemble des femmes de la classe ouvrière, qu'elles soient racisées, migrantes ou blanches, cis, trans ou non-binaires, femmes au foyer ou travailleuses du sexe, payées à l'heure, à la semaine, au mois ou pas du tout, sans emploi ou précaire, jeunes ou vieilles. Résolument internationaliste, il est fermement opposé à l'impérialisme et à la guerre. Le féminisme pour les 99% n'est pas seulement anti-néolibéral, il est aussi anticapitaliste.
L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme, condition sine qua non. Ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme, je dépose une bombe dans la machine patriarcale.
L'idéal de la femme blanche, hein, séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler, je crois bien qu'elle n'existe pas.
Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarcat, patrie.